Radio Campus 88.3 et Agisson présente.
Une oreille va tomber.
Quelque part, dans les sous-sols d'Orléans.
Mes amis, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est que les choses doivent mieux s'organiser pour nous dans cette ville.
Ouais !
C'est pas faux.
Cela fait trop longtemps que la musique est mal considérée.
Ouais !
Il est temps de montrer aux limonadiers de quoi nous sommes capables.
Ouais !
Je vous propose un nom qui nous unira et que nous brandirons aux quatre coins de l'agglomération.
Ouais !
Mesdames, messieurs, mes amis disques jockeys, que le Saint-Disque soit.
Bon, maintenant, qui s'occupe de la bâche?
Faut arriver à quelle heure pour les balances?
Il nous file à manger?
150 balles?
Vous êtes sûr que vous pouvez pas me filer du liquide pour la presta de vendredi dernier?
Ma voiture a lâché et j'ai plus mon permis. Quelqu'un peut m'emmener avec ma sono?
Ok, t'as les platines, mais qui est-ce qui ramène les enceintes?
Qui a des XLR de 30 mètres à me prêter?
Super, je vais pouvoir passer de la techno!
Et les gars, on mixe encore dans un brunch. Quelqu'un a des trucs pour éviter le rumble sur les vinyles?
Et c'est le pain de mie?
Et c'est payé pour la fête de la musique? Parce que moi j'ai acheté du sirop banane, du sirop orange, du sirop citron, du sirop menthe, et j'attends encore qu'on me rembourse la facture, s'il te plaît.
Ah putain!
You so regret what you have done. Now you're doomed.
Et vous êtes bien sur Radio Campus, c'est l'émission du Saint-Disque et c'est The KLN qui vous parle aujourd'hui en ce jour férié. Nous, on travaille quand même, on a quand même quelque chose à vous proposer et en face de moi, là j'ai quatre invités et je suis très content de les accueillir. On va commencer par Anasmat. Comment tu vas?
Eh ben ça va.
Super.
Salut Philippe.
La forme?
Ouais, ça va.
Ok, alors, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Parce que t'es notre dernière recrue au Saint-Disque, tu viens tout juste d'arriver. Qui es-tu? Que fais-tu?
Eh bien, moi, je suis Anasmat, donc je suis DJ. Ça va faire maintenant bientôt 5 ans que je mixe. Et j'ai pour habitude, en général, de mixer dans ma chambre. Mais cette année, je me suis dit, j'ai envie et j'ai maintenant... je considère que j'ai des capacités solides, donc j'ai envie de me montrer en public, de faire des prestations et... Et donc le Saint-Disque, comme je connaissais déjà des gens là-bas, bah, je me suis dit que ça serait une très bonne opportunité pour moi de m'exprimer.
Alors tu dis que ça fait 5 ans que tu mixes. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, histoire qu'on ait une petite idée?
Là j'ai 17 ans et je suis de juin, donc j'ai bientôt 17 ans et demi en fait.
Ok, qu'est-ce qui t'a fait tomber un peu dans l'univers des DJ et de la musique électronique?
Bah en fait, mon père était DJ lui-même avant que je naisse et il avait fait des mix sur cassette pour ma mère. Et quand j'étais petit, ça m'arrivait souvent de les écouter. Et puis tout récemment, j'ai commencé à m'y intéresser plus en détail. Et c'est ça qui m'a un petit peu donné la voix et la passion.
Donc il mixait sur cassette, c'est ça?
En fait, il mixait sur vinyle et il a enregistré ses mix sur cassette pour les donner à ma mère, comme ils habitaient assez loin l'un de l'autre.
T'as pu bénéficier un peu de son matériel alors, d'une certaine manière?
Pas vraiment, parce qu'il avait tout revendu avant que je naisse, donc ses cassettes c'était les seuls vestiges que j'avais. Mais il a un ami qui est DJ lui aussi et qui actuellement est directeur de boîte de nuit, donc ça nous est déjà arrivé d'aller chez lui et c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir tout l'univers, puisque c'est lui qui a racheté son matériel, donc j'ai découvert tout leur vinyle, ses platines, sa table de mixage, et c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a donné le coup de cœur.
D'accord. Et au niveau de tes influences, au niveau des DJ, après tu t'es mis à suivre qui est-ce qui t'a un peu guidé en tant que DJ?
Tout d'abord, je mixais surtout de la house et de la techno, les vieux trucs que mon père mixait en fait. Et j'ai toujours été très fan, par exemple, de Carl Cox ou même d'Armand Van Helden. Mais plus récemment, je me suis mis à la drum and bass et tout ce qui est jungle, grâce notamment à GTA qui avait une radio qui s'appelait MSX FM qui proposait ce style de musique. Et finalement, j'ai commencé à creuser le trou de lapin et c'est ça qui m'a... pareil, donner le coup de cœur pour ce style, et notamment Rob Playford, qui est le gérant du label et qui a produit des mix chaque année de 98 à 2005 je crois, qui recompilait les meilleurs sons, les meilleures sorties des labels de cette année.
Alors ça c'est quand même peu commun. T'es tombé dans la drum and bass par GTA, par radio, ouais. De GTA, ok. Ok, donc comme quoi ça peut faire aussi un peu de la bonne pub pour GTA. GTA n'est pas qu'un jeu violent, c'est aussi un jeu avec des très très bonnes playlists et des très très bonnes radios. Notamment très moi clairement. Je pense tout de suite à celle qui diffuse de la funk H24, qui est incroyable. Mais ouais, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu envisages en gros en tant que DJ? Est-ce que tu veux vraiment te spécialiser sur un style, notamment la drum and bass, ou alors est-ce que tu es prêt à découvrir encore d'autres choses? Quel type de scène tu aimerais vraiment avoir?
La drum and bass c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup mixer, mais je suis aussi un très très gros fan de house et de pratiquement tous les styles de house, bon, surtout les vieux styles, mais j'aime aussi la techno, donc je suis assez, disons que ce que je mixe est assez éparpillé dans la musique électronique, mais je suis surtout là-dedans, on peut dire, ouais, tout ce qui est house, techno, même acid, trance, tous ces genres-là.
D'accord, donc tu touches quand même un petit peu à tout.
Ouais.
T'as fait une prestation dernièrement ?
Oui, j'ai mixé chez un ami, bah, chez Andrea, il se reconnaîtra s'il m'écoute. Et là, j'avais mixé à peu près toute ma panoplie. J'avais commencé avec de la Chicago House, tranquille, puis j'avais fini sur des trucs complètement dégénérés à 3h du mat, qui étaient très très énervés. C'était vraiment une très très belle session, j'ai dû mixer 6h je crois. Et bah franchement, je me suis éclaté. Les gens sur place aussi ont adoré. Donc franchement, c'était une très très bonne expérience à refaire.
Et t'as des dates prévues prochainement ?
Non, pas spécialement. Peut-être le nouvel an, encore chez Andrea. Mais sinon, pas vraiment. Je suis libre.
Ok, très bien. Est-ce que tu composes aussi ? Parce qu'il y a beaucoup de DJ qui sont aussi producteurs, des DJ producteurs. Est-ce que toi aussi tu te mets à la production ou alors est-ce que c'est un truc qui pourrait t'attirer dans les années à venir ?
Pour le moment, je produis pas du tout. J'avoue que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Mais il faut savoir que j'ai vraiment pas l'esprit créatif. Donc c'est assez dur pour moi de créer quelque chose à partir de zéro. Mais j'aimerais quand même m'y mettre dans les années à venir. Oui, parce que bah, j'ai beaucoup d'influence. J'écoute énormément de musique et bah, ça... Ça influe sur moi aussi et ce que j'aimerais faire plus tard.
Ok, donc à suivre, affaire à suivre.
Exactement.
Ok, très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes réseaux, si tu as envie qu'on te retrouve, notamment sur certains réseaux, où est-ce qu'on peut le faire ?
Si vous voulez écouter mes mix, il y a ma chaîne YouTube, vous tapez Anasmat sur YouTube et normalement vous trouverez ma chaîne. J'ai des couvertures de mix un peu bizarres, donc si vous en trouvez comme ça, ce sera très certainement moi.
Très bien, ok. Donc tu n'es pas venu seul, tu es venu aussi avec un ami à toi, Alex.
Ouais.
Salut Alex, si tu veux dire un petit mot.
Eh ben, je viens pour assister et soutenir Mathieu.
Rapproche-toi bien du micro, histoire que
je viens pour soutenir Mathieu et lui donner de la force.
Tu le suis depuis un petit moment ?
Oui, depuis, on est amis depuis longtemps, donc je le suis depuis ses débuts et je l'ai vu évoluer et le voir devenir un meilleur DJ d'année en année.
Ok, donc il y a une belle marge de progression. Ok. Toi, ça te touche d'avoir un ami qui te suit depuis plusieurs années sur ce que tu fais et qui voit ton évolution ?
Clairement, c'est toujours une très bonne chose d'avoir des amis qui te soutiennent dans tes projets et même qui puissent t'encourager et tout simplement qui aiment ce que tu fais. Quoi. C'est toujours assez galvanisant et ça donne envie de continuer.
Ok, c'est vrai. En tout cas, c'est très beau. Bon, j'espère que tout ça va durer encore très longtemps et qu'il y aura une belle marge de progression encore. Et qu'un jour, que peut-être tu feras de la production. En attendant, je vais te laisser revenir de mon côté du studio pour te préparer pour les platines, car tu nous fais un petit set. Et d'ailleurs, tiens, oui, on n'a pas parlé de ça. Quel type de... Bon, alors, ça va être facile, peut-être que les auditeurs vont trouver vu qu'on a parlé un petit peu, mais quel type de musique tu vas passer ce soir ?
Justement, ce soir, je vais passer de la drum and bass, donc un style assez, assez énervé de drum and bass. J'ai surtout mixé des morceaux qui sont parus sur le label Moving Shadow, qui a été un label très avant-gardiste dans les années 90 donc, et 2000 d'ailleurs. Donc là, c'est surtout ce que je vais passer.
Ok, très bien. Allez, je te laisse revenir de mon côté, te préparer. Et on va enchaîner avec mes deux derniers invités. Et alors là, attention, car... On est toujours dans le domaine un peu culturel, forcément, dans le domaine aussi de l'événementiel, mais ça n'est pas des DJ. On va commencer par Alexandre. Ça va Alexandre, tu vas bien?
Ça va, la voix un peu cassée mais ça
ouais.
va.
Ça va mieux que tout à l'heure.
Ça va mieux que tout à l'heure, ouais.
Content d'être venu.
Comment? Oui, super, vraiment. Moi, merci pour l'invitation.
Très content de t'accueillir aussi. Alors, Alexandre, qui es-tu?
Alors, je suis... Bon, les autres me définissent par mon boulot étudiant qui est photographe. Donc, je suis photographe depuis environ 2 ans. Je fais de la photo plus particulièrement dans le domaine de l'événementiel, surtout de la boîte de nuit. Voilà, je travaille pour la boîte de nuit le Georges à Orléans tous les week-ends. Et puis, je fais des soirées étudiantes par-ci, par-là, des galas, puis d'autres prestations pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais en général, ça reste de l'événementiel. Bah, récemment, avec ton équipe Onifilm, j'ai pris des photos pour votre prestation La Nuit des Ombres au musée d'Orléans. Donc voilà, super sympa. Et ouais. Puis, voilà, en général, de l'événementiel, des photos de l'événementiel, un peu de festival aussi. Voilà, c'est un peu plus compliqué sur Orléans, même si récemment, il y a eu un festival qui s'appelait l'Electro Green.
Ouais.
Qui était sur le bas. Littéralement à 100 mètres d'ici quoi. Donc voilà, j'ai pris des photos aussi là-bas et c'était super cool.
D'ailleurs, on a beaucoup apprécié tes photos de la Nuit des Ombres. Vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux, notamment le réseau de l'association Onifilm qui a organisé cet événement. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo?
Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai commencé du coup la photo il y a environ 2 ans. La première fois que j'ai touché un appareil photo, c'était celui d'un pote. On était allé à un rasso de bagnole, tout simplement, à la chapelle. Je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est le rasso de la chapelle le dimanche sur le parking, là, près du...
Rétro-chap,
quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Mais là, c'était pas trop des rétros, c'est plus des voitures un peu tous les jours, on va dire. Enfin, tous les jours, justement, pas du rétro. et donc, on avait... il avait son appareil photo, un petit truc. J'ai testé, j'ai pris 2-3 photos et je me suis dit, bah, il m'en faut un. Donc j'ai bossé tout l'été en restauration. J'ai bossé au Garden Ice. Que je pense que tu connais, c'est le rythme. J'en avais, pardon du terme, mais j'en avais vraiment chié quoi. Je pense que ma paye, je l'avais pas volée. Hein, je vais pas te mentir. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai reçu ma paye et comme c'était en intérim, je l'avais reçu un peu tard en plus. Mais genre le 7, j'ai eu ma paye. Le 8, j'avais plus rien sur mon compte. J'ai tout cramé pour mon appareil photo quoi, quasiment. Et en fait, au début, mes parents étaient un peu réticents. Bah, forcément, quand ton gamin il vient te voir, il te dit bah, je veux cliquer toute ma paye dans un appareil photo. Mon père il m'avait dit non. Pourtant, même si le projet, on va dire, de vouloir le rentabiliser et donc commencer à vouloir faire me payer pour mes photos, je l'avais en tête. Ce qui était super arrogant pour un mec qui venait d'acheter un appareil photo, quoi. Genre, on va pas se mentir. Et je pense que mon père était vachement réticent à l'époque. Et je pense que maintenant, il est plutôt super content, même s'il me dit pas trop. Je pense qu'il est content là-dessus. Donc voilà, j'ai acheté l'appareil photo, j'ai commencé à faire de la photo parce que du coup au même moment en septembre je rentrais à la fac en histoire, donc là aussi à 20 mètres. Les soirées étudiantes, tout ça, voilà, tu veux un peu sociabiliser. Donc j'ai pris mon appareil photo, je l'ai emmené en soirée et je me suis vite rendu compte qu'il fallait acheter un flash externe parce que ça allait pas le faire sans flash. Et donc j'ai acheté un flash, j'ai eu ma première prestation en décembre 2023. Et voilà, et puis bah après j'ai fait un petit peu un portfolio pendant quelques mois. Puis je suis allé démarcher à la boîte de nuit, le Georges, un soir. Puis bah le lendemain ils m'ont dit viens.
C'était pas plus tôt que décembre 2023 le gala infirmier qu'on avait fait ensemble, c'était en juin je crois, 2023.
Voilà, oui. Parce que justement, ma prestation était en décembre 2022. Et comme je me suis déclaré en janvier 2023, t'as raison, j'ai fait ma facture pour le 1er janvier 2023, effectivement. J'ai des problèmes de...
Bon, c'est qu'un détail, c'est à quelques mois après, dans tous les cas. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu avais déjà en fait une idée en tête. Donc tu as acheté ton appareil, mais pas par hasard en fait. Mm-hmm. Tu avais quand même une direction que tu voulais prendre et que tu as prise depuis. Mm-hmm. Et franchement, bah, déjà, bravo pour ça. Où est-ce que tu aimerais aller exactement dans la photographie? Est-ce que tu as aussi une direction déjà dans ta tête, une autre, maintenant que tu as déjà fait ce parcours-là? Ou alors tu sais pas trop encore?
Franchement, c'est assez flou. Plus le temps passe, plus mes idées changent forcément. Enfin, je me souviens que quand je suis rentré en L1 à la fac, c'était déjà tout tracé, j'allais faire journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, je vais plus du tout faire ça, même si je pense qu'il faut que je continue à me renseigner là-dessus. Mais pour la photo, en fait, là, tout va jouer un petit peu dans les mois suivants, j'ai envie de dire. En fait, moi, je voudrais faire un master en histoire, et un master plus particulièrement en numismatique. Donc, pour expliquer, c'est l'étude des pièces de monnaie anciennes. Voilà, je suis fan d'histoire antique et en histoire antique on a très peu de sources. Les sources, c'est sur quoi les historiens se basent pour établir leur travail. parce que voilà, forcément, bah, plus le temps remonte, plus les sources sont manquantes, donc très peu de sources écrites, même si l'archéologie est un bon un domaine en plein essor. La numismatique, les pièces de monnaie, c'est des sources de première main. Donc en fait, c'est des sources qui nous sont parvenues directement à nous, sans avoir été modifiées par le temps, en fait, j'ai envie de dire, enfin, pas trop. Et donc du coup, en fait, on se sent vraiment au plus proche de l'histoire avec la numismatique. Voilà, j'ai acheté une pièce de monnaie, quand tu prends une pièce de monnaie qui a 2000 ans dans la main, perso ça me fait quelque chose, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutraient, mais moi ça me fait un truc.
T'as une part d'histoire entre tes mains.
Quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est, je trouve ça absolument dingue de se dire que je touche la main, enfin je touche une pièce de monnaie qu'un Romain avait dans sa besace il y a 2000 ans, enfin, t'as plein d'images qui viennent en tête personnellement. Ouais. Donc bref, j'aimerais faire un master en numismatique pour revenir avec la photo. Le problème c'est que Orléans est la meilleure ville de numismatique en France. J'ai le problème en fait, pourquoi ? Parce que j'aimerais en fait partir à Paris en fait l'an prochain tout simplement, voilà, pour développer ma photo. En fait, j'aurais fait mon master pendant 2 ans en histoire. J'ai même envie de dire à la limite qu'importe le master, je veux aller à Paris en fait.
C'est plus le pas. C'est ta destination, tu veux vraiment aller.
C'est plus la ville.
C'est la ville ou c'est certains événements qui sont organisés ou certains établissements ou...
Bah, du coup, surtout en rapport avec la photo, parce que je me dis que s'il y a un endroit où ça peut marcher, c'est là-bas. Même si à Orléans, pour l'instant, je suis très content de ce que je fais à mon échelle, hein. Il n'y a pas à se dire. Mais voilà, j'aimerais beaucoup partir à Paris pour développer ma photo. Et je me dis, je vais faire mon master pendant 2 ans. Si la photo, ça pète pendant ces 2 années, je vais dans la photo. Quitte à le faire quelques années et après repartir du côté de l'histoire. Mais si ça marche pas, ou alors je me rends compte que j'ai pas envie de faire ça, je continuerai mes études en histoire et peut-être du coup devenir prof de fac.
Okay, donc t'as déjà quand même bien réfléchi à ton parcours, ouais. Et notamment à plusieurs plans B au cas où. Non, c'est bien, c'est très très bien. Parlons un peu d'Orléans et de la photo. Moi, je trouve qu'il y a quand même une belle scène au niveau de la photographie. Alors, je suis pas du tout photographe, mais mine de rien, en tant que DJ, j'en vois quand même un paquet. Et je trouve qu'il y a une belle scène. Toi, quel est ton avis là-dessus ?
En fait, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, tu dois rencontrer pas mal de photographes. Du coup forcément je reconnais quelques-uns, forcément on est amené à discuter ensemble. Le premier photographe qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis en fait de me lancer, c'est Antoine Fouchard. Ouais. Du coup tu connais, voilà. Ouais. ce mec là il est plus trop sur Orléans, il a 20 ans mais il est surtout à Bordeaux. Et en fait c'était la première prestation, il bossait à l'ISC à l'époque et en tant qu'étudiant. Et il m'avait dit qu'il pouvait pas faire une presta pour le gala. Donc c'est moi qui avais fait du coup leur premier gala. Et ce mec là était grave cool, il m'avait filé plein de conseils et tout. Et justement en fait c'est un truc qui est... En fait la scène des photographes... Est-ce que tu connais le gatekeeping ?
Pas du tout.
La traduction littérale, s'il pouvait y en avoir, c'est gardeur de bon, enfin garder le bon quoi. En fait c'est-à-dire que c'est un domaine, la photographie qui est assez bouché. Beaucoup de gens veulent faire de la photo et des places pour des événements prestigieux, il n'y en a pas beaucoup. Donc beaucoup de gens se retrouvent en fait à être bénévoles sur des événements en fait. Et des fois en fait, les photographes vont un peu se tirer les balles dans le pied les uns des autres. Par exemple, je sais pas, tu vas aller faire des photos à tel endroit. Bah, les mecs qui organisent ça savent que ils vont avoir énormément de demandes de photographes. Et donc en fait, tout le monde va vouloir se tirer dessus, soit en tirant les prix complètement vers le bas, soit en les annihilant complètement. Et donc en fait, le bénévolat dans la photographie, c'est bien au début pour se faire un portfolio, mais après faut pas. Mais du coup, pour revenir un petit peu à la scène orléanaise, je m'écarte vachement de ouf. Et y a du monde. Je discute pas trop parce qu'encore une fois, la photo c'est pas mon truc à plein temps. C'est pas du tout mon truc à plein temps. Est-ce que je la vois comme quelque chose que je kiffe mais qui me permet surtout de subvenir à mes besoins en tant qu'étudiant ? Peut-être un peu plus aujourd'hui. Il y a un an, je t'aurais dit. Je veux vraiment faire de la photo à fond, c'est bon, j'y vais dessus. Et maintenant, avec la fac et les cours que j'ai repris en septembre, je me rends compte de la folie, à quel point j'aime trop ça. Donc, voilà, ça, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre de temps en temps. On verra lequel prendra sur l'autre, lequel prendra l'ascendant sur l'autre à l'avenir. Mais si, en termes de scène orléanaise, voilà, j'aime bien Antoine Fouchard, ses photos sont vraiment cool. Il fait de l'événementiel aussi. Il s'améliore en plus, franchement, c'est vraiment sympa. Le gros photographe orléanais que tout le monde connaît quand tu fais un petit peu de photos. Dans ce domaine-là, c'est Miko.
Ouais, Miko. Ouais.
Avec Multid, voilà, ce mec-là. Ouais.
L'équipe de Multid. Ouais.
Ils sont chauds, les mecs. Franchement, Miko, c'est photographe perso, un petit peu pour qu'on ait une image. Il fait Mala, Chami, il fait SCH, DJ Snake. Donc, c'est vraiment des gros noms. Les photos sont énervées de fou. Un mec que j'aime bien aussi, que je connais quasiment pas, je lui ai parlé deux fois. C'est un mec qui s'appelle Mathis, qui travaille pour Horizon, je crois. Et on l'a parlé deux, trois fois, mais ce mec-là, il fait des bêtes de photos aussi, franchement. Hein. Pareil, un peu de l'événementiel. En rapport avec la musique aussi, pour pas mal de rappeurs, des trucs comme ça en photo. Ce qu'il fait, c'est vraiment lourd. Et là, il y a vraiment une démarche artistique derrière. Franchement, tu vois que c'est un mec qui a vraiment sa base artistique, qui, en tout cas, qui commence à la développer, je pense. Voilà, c'est pas tout à fait comme moi, où en fait, en photo, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu, des fois, t'es obligé. Tu dois répondre à des demandes des clients, en fait. Tout simplement. Bon, le top du top, c'est quand le client te laisse complètement libre sur ta démarche artistique, bien sûr. Mais forcément, des fois, bah, tu dois faire telle ou telle photo. Donc, tu le fais, tout simplement. Donc, voilà, il y a un petit peu la photo commerciale, la photo artistique. Il y a des mecs qui sont très commerciales et des mecs qui sont très artistiques.
Plus artistiques, ouais.
Si je dois faire une comparaison sur Orléans, forcément, Multit, qui est une boîte de prod, je dirais que les photos, en fait, l'ensemble des photographes peut reproduire un petit peu les photographes de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si tu regardes les photos du Nova, du coup, ils font des photos au Nova. Je sais que c'est pas du tout le même photographe tous les week-ends, mais pourtant les photos sont très proches les unes des autres. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'arriverais pas à te dire quel photographe du Multid a pris quelle photo.
Il y a une sorte de direction artistique commune.
Je te jure. Ouais. Okay. Et même en termes de... Déjà, la retouche, je sais que c'est vraiment... ils savent tous comment est leur retouche. Enfin, je veux dire, dans l'équipe, ils savent comment ils doivent retoucher la photo. Mais même l'œil qu'ils ont, le cadrage, la composition, c'est vachement proche les uns des autres. Donc, je ne saurais pas te dire qui fait quoi, quelle photo appartient à qui. Voilà, puis t'as des mecs ensuite complètement aux antipodes qui sont vraiment artistiques de ouf. Je sais pas, ouais, déjà Mathis il a vraiment un délire. Un mec qui s'appelle aussi Enki, je lui ai jamais parlé, mais on s'était follow sur les réseaux. Et pareil, il a un petit délire artistique quand même, ces mecs là, donc voilà. Photo commerciale, photo artistique. Les deux ont pas forcément les mêmes buts, mais il peut y avoir une cohabitation et en général, quand on discute ensemble, c'est toujours cool.
Ok, bon bah super, super, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux notamment.
Du coup sur les réseaux, faut que je change absolument ce nom qui est pourri, mais c'est Pruvost View sur Insta. Donc Pruvost c'est mon nom de famille, P-R-U-V-O-S-T, et View en anglais. Je l'ai pompé sur un des premiers photographes auxquels j'ai parlé, et qui avait son prénom plus le mot View à côté. Et moi, Alexandre View, ça marchait pas, c'était déjà pris. Pff.
Tu diffuses beaucoup tes photos dessus ou pas?
Alors sur Insta très peu, je suis un débile pareil. Hein.
Photographe qui monte pas ses photos.
C'est un truc de fou, le mec il a rien compris quoi. Enfin, genre, c'est sa vitrine, il s'en sert pas, enfin bref. Si, par contre, j'ai mon site.
Tu joues sur la rareté, c'est ça.
Exactement. Ouais. Tu vois, quand on poste, c'est un truc. Ça crée de l'envie.
Ah ouais,
non,
ouais,
je rigole.
C'est un événement.
je te jure, genre, je le poste et j'ai 10 likes, je suis trop content. Non, mais mon site internet qui est en bio, déjà, est plus complet. Donc voilà. Merci à mon pote Sébastien qui m'a tout codé de A à Z. C'est un monstre. Un site comme ça, j'aurais payé 10 000 balles. J'ai pas payé 10 000 balles. Donc merci à lui. Franchement, le site est incroyable. Et donc là, par contre, j'ai vraiment ma galerie de photos que je poste. Donc, voilà. Et parce que sur Insta, en fait, je poste pas trop parce que t'as vu, il y a des comptes Insta de photographes où les mecs, leur première photo qu'ils postent et leur dernière, il y a beau avoir 10 ans d'écart, ils les ont pas supprimées. Alors que moi, des photos que j'ai postées il y a un an, aujourd'hui, je me dis oula. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie que les gens la voient sur mon compte Insta, tu vois? Donc, je poste pas trop parce que j'ai peur que dans quelques mois, je me dise la photo est pourrie. Alors qu'en vrai, c'était juste une évolution, en fait.
C'est pas
critiqué, quoi. Mais voilà, surtout ma galerie sur mon site internet, elle est plus à jour, les photos que je kiffe et que je sais que je kifferai plus tard. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir mes photos, c'est mon site internet alexandre-pruvost.fr. Voilà.
Ah bah super. On ira aller regarder tout ça et puis on verra si le compte Instagram il grossit de semaine en semaine. Merci à toi.
Bah avec plaisir.
Merci beaucoup. On va enchaîner avec le dernier invité. Salut Xavier, comment tu vas?
Ça va très bien et merci pour l'invitation.
Alors rapproche-toi bien du micro histoire qu'on entende ta belle voix comme il faut.
Eh bien, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici.
Ok, voilà. C'est ta première radio?
Oui, c'est la première.
Ah bah je suis très honoré. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu n'es pas DJ non plus, tu n'es pas photographe.
Non plus.
Quoique, pas photographe, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien quand même de loin avec la photographie?
Eh oui, parce que c'est quand même une petite passion, j'adore prendre des photos, j'adore me promener dans la rue, j'adore avoir un regard curieux. J'aime découvrir, donc je pense qu'il y a un parallèle très important entre la photo et la peinture. Donc voilà, donc je peins.
Donc tu peins.
Donc je peins, voilà, c'est okay. Un grand plaisir.
Tu es peintre en bâtiment, c'est ça?
Mais bien sûr.
Non, plus sérieusement, qu'est-ce que tu peins exactement?
Alors on dit que c'est du pop art. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup de couleurs. Il faut que ce soit vif. C'est beaucoup des personnages connus qui ont un geste, un accessoire, quelque chose qui les rend plus modernes, plus... Voilà. Je veux que les gens, quand ils regardent mes tableaux, un petit sourire, voilà, qu'ils sont contents, que ça les amuse, que c'est... voilà. Avant tout, je me fais plaisir à moi.
D'accord. Voilà, donc tu aimes tes peintures et tes productions. Tu aimes les faire, tu aimes les regarder.
J'aime les faire. Après, je pense que c'est comme toi. On n'est jamais satisfait. Enfin, déjà, comment on fait pour finir une toile? Est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on continue? Est-ce que... Mais j'aime bien mon univers quand même. J'aime bien toutes ces couleurs. J'aime bien, c'est dynamique. Et ça donne le sourire, je me répète, mais ça donne le sourire. Et voilà.
Et le pop art, c'est quoi, oui, selon toi? Déjà, c'est quelle période exactement? Parce que moi, d'un point de vue perso, la peinture, j'en ai pas fait depuis le collège et les cours d'art plastique. Donc, ma mémoire est très lointaine.
Et bien, je serais incapable de te répondre.
D'accord.
Voilà, je sais que ça date, bien sûr. Je pense que c'est avec Andy Warhol,
ouais,
que c'est venu, voilà.
Ouais.
C'est pas si vieux que ça non plus, hein. Mais voilà.
Et pourquoi alors le pop art? Qu'est-ce qui t'a touché dans cet art?
Parce que c'est dynamique, c'est beau, c'est... Et puis, au fond, moi, je suis un petit peu feignant. Parce que mon rêve serait peindre des grands tableaux avec plein de petits détails, plein
du clair-obscur, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, ce serait parfait, ce serait des paysages, ce serait super. Mais moi j'aime bien tout ce qui est à plat, des couleurs. Voilà, il y a une couleur pour le fond, une couleur pour. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se dégage et il y a un côté un peu. Après, je pense aussi, j'étais fan de Tintin, de Hergé, et toutes ces vignettes là. Ben, je crois que c'est ça qui m'a marqué. Voilà, je veux qu'un cas, enfin, une toile raconte une histoire ou quelque chose. Et pas besoin de trop de petits détails ou de couleurs. Ou même si c'est mon rêve de pouvoir repeindre avec une palette très riche, mais ça m'arrive de faire quelque chose, quelques petites toiles comme ça avec plein de, ouais, une palette. Riche, mais je sais pas, j'ai le besoin de faire des choses peut-être simples, mais si, enfin, c'est plutôt le style bande dessinée, quoi, le pop art, voilà.
Et comment tu peins? Avec quels outils?
Oh, c'est basique, hein, c'est de l'acrylique, des pinceaux, voilà, et j'adore peindre la nuit. Je trouve qu'il y a une ambiance. Parce que déjà.
La nuit, oui, ok, la nuit est très inspirante.
J'adore l'ambiance, parce que déjà je travaille, donc voilà, donc j'aime bien peindre la nuit, parce qu'il y a une ambiance, et ma vitrine est ouverte, je vois la lumière, je suis tout seul, je peux mettre ma musique, voilà, je suis tout seul, et puis j'ai une petite lumière qui éclaire ma toile, et ça me permet de bien plonger à l'intérieur, et puis voilà, c'est...
T'écoutes un petit peu de musique quand tu peins?
Oui.
T'écoutes quoi?
Ce
serait quoi ta playlist?
Ça va aller à du classique, à ce qu'on entend là, de la variété française, ça peut être tout sauf de la country. oui, ça dépend.
T'as pas un petit morceau référence à nous transmettre?
En fait, c'est souvent selon le sujet. Quand j'ai peint un John, et moi je pense que j'ai un problème dans ma tête, hein, ça je l'ai toujours su. Cette toile, parce qu'il me faut peut-être 2-3 semaines ou un mois ou un peu plus selon le temps. Mais pour ma toile Elton John, je n'ai pas arrêté d'écouter la chanson Your Song. Donc je l'ai dû l'écouter 500-700 fois. Enfin,
très jolie chanson.
Oui, parce que j'ai besoin que ça me plonge dans l'ambiance, dans une. Parce qu'il y a aussi cette lumière de la nuit, il y a de peindre, je suis tout seul avec ma toile, enfin c'est un peu égoïste, mais voilà quoi, j'adore.
Et tu te retrouves en tête à tête avec ta toile et pour toute la nuit, quoi, en quelque sorte.
Voilà, donc lundi matin, faut pas venir me voir. Hein.
Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça?
Alors quand j'étais ado, je prenais des cours le samedi, le mercredi après-midi aux Beaux-Arts. Et là, j'ai fait des superbes rencontres parce que j'ai la chance de ma vie de faire de très belles rencontres et que j'ai encore comme ami.
Et avec l'âge, on est devenu adulte, famille, couple. Donc on se fait des week-ends peinture qui, il faut avouer, se transforme plus en week-end apéro que peinture.
Oui, mais c'est pour être dans l'inspiration. C'est voilà. Pour avoir des idées à mettre sur la toile ensuite. Quoi.
C'est ça. Et voilà. Et donc je commence une toile pendant ces week-ends et après, j'y travaille pendant des semaines et des semaines. Et après, c'est le hasard qui a fait que j'ai rencontré. Je suis allé à Louis Galerie qui m'a. C'était une très belle rencontre. Je suis rentré juste pour voir l'expo. Je lui ai dit que j'adorais ses tableaux et elle m'a dit « Est-ce que tu veux que je t'expose ?» Et moi, dans ma tête, « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Et là, j'ai dit un grand oui. Et c'est une petite aventure qui commence, mais je suis ravi parce que je fais de très, très belles rencontres. J'ai exposé au théâtre Clin d'œil, un accueil superbe, un vernissage qui était superbe. Il y a mon pote de l'atelier de Mr. T qui est... On peut être exposé chez lui. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent et qui viennent. Et voilà.
Et récemment, tu as fait un petit vernissage à la ruche.
Voilà, qui est encore présent jusqu'au 7 décembre. Voilà.
D'accord, donc on peut encore aller le voir.
Mais avec grand plaisir, allez-y. Ah, hein.
Alors ça, c'est une info qu'il faut donner. Donc, rendez-vous à la ruche jusqu'au 7 décembre pour voir certaines de tes œuvres.
Voilà, et il y a un petit bouquin, si vous voulez marquer un petit mot, un petit coucou, ce que vous voulez, ou me faire un petit dessin. Je prends, je suis preneur. Donc voilà.
Est-ce que tu as eu. C'est quoi le meilleur retour que tu as eu sur tes peintures, par exemple, dans une exposition ?
Oh !
Est-ce qu'on t'a fait parfois des éloges, ou alors à l'inverse, hein, le pire retour qu'on t'ait fait, genre est-ce qu'on t'a dit que c'était une croûte, ou que c'était du copier-coller, je sais pas.
Après, c'est vrai que. Il faut avoir beaucoup de recul. Mais je n'ai pas de souvenir de phrases exactes qui m'ont fait extrêmement plaisir, mais ce qui fait extrêmement plaisir, ce sont les gens qui ont des coups de cœur, et qui ne savent pas expliquer, mais qui adorent la toile, parce que ça leur parle. Et quand je vois leurs yeux, et quand je leur dis, prends là, et rien que ça, c'est que du bonheur. Ah, je suis ravi, enfin voilà. Parce que ce n'est pas évident, parce qu'on peint pour soi, mais est-ce que ça va plaire aux autres ?
Voilà. Ça, c'est toute la question, même au niveau de la photographie et de la musique. Je pense qu'on a tous ce même questionnement.
Cette question-là de retour des gens, elle est super importante. Mm-hmm. Et là, tu vois, tu avais l'air un petit peu ému à la limite que les gens fassent un retour sans pouvoir te dire pourquoi ils ont autant aimé. Mais des fois, les gens ne se rendent pas compte de la puissance d'un simple retour. Mm-hmm. Simplement dire « j'aime bien ce que tu fais », franchement, ça pourrait être une raison de vivre. C'est peut-être vraiment le leitmotiv. Comme disait tout à l'heure, ça peut vraiment être galvanisant à en mourir. J'ai des amis, des fois, je poste une photo vite fait sur les réseaux. Et j'ai un pote récemment, il n'est pas spécialement très proche, tu vois.
Oui.
Mais j'ai mis une de mes photos en story récemment. Et il m'a vraiment fait... mais c'est rien, tu vois, il a répondu à la story, 3-4 phrases. Mais rien que ça, en fait, tu vois, c'est... Enfin, t'es vraiment ému, quoi. Le mec, tu lui dis, écoute, mec, ton retour, c'est rien, c'est 5-6 secondes, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais un retour de 2-3 secondes, juste dire « Mec, qu'est-ce que tu fais ?» Si en plus, d'ailleurs, tu peux dire pourquoi, c'est encore mieux, mais déjà, rien que dire à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais ?» Pour tout, n'importe quel mec dans la création, ça va lui donner envie de continuer, en fait.
Je suis d'accord avec toi, et si je peux me permettre, c'est que souvent, les amis, la famille, ils aiment ce qu'on fait, parce qu'on dit « Bon, c'est la politesse, c'est quoi que ce soit. » Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas et qui te dit qu'il aime, c'est... Champagne.
C'est la meilleure des récompenses.
Champagne, voilà.
Oui, un très beau commentaire que j'ai eu cette année, plusieurs fois dans certains mariages, je crois, c'est qu'on m'a dit que je faisais des très belles transitions, des transitions assez raffinées. Et déjà, j'ai trouvé ça fou que dans les mariages, les gens s'en rendent compte.
Mmh.
Et en plus de ça, ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, j'essaie de travailler en tant que DJ mes transitions de manière la plus raffinée possible. Quoi.
Mmh.
Donc oui, tout ça, c'est des questionnements qu'on a et c'est des bons questionnements, je pense. Et de toute façon, je dirais que quand on propose quelque chose, on voit instantanément si les gens réagissent ou pas en fonction de ce qu'on leur propose.
C'est clair. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit peu un manque d'éducation sur les sujets. Simplement, les gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait.
Oui, mais alors ça, oui.
Du coup, ton émission permet, j'espère, un petit peu d'éduquer un peu plus les gens là-dessus. Faut pas voir le terme éduquer comme quelque chose de péjoratif. Hein. Je pourrais dire qu'il faut apporter la lumière aux gens et qu'on est des gros connards, peu arrogants, tu vois.
Moi-même, je suis pas éduqué sur la peinture, par exemple, mais ça n'empêche pas de t'y intéresser. Je pense que les gens qui, par exemple, te disent qu'ils ont un coup de cœur sur tes peintures, ils savent pas l'expliquer, peut-être pour ça. C'est-à-dire que si moi je vois tes peintures et que j'ai un coup de cœur, enfin j'ai déjà vu tes peintures, il y en a certaines que je trouve quand même très sympa.
Merci.
Ben, je ne sais pas l'expliquer pourquoi, parce que je ne connais pas la technique derrière, je ne sais pas comment tu as fait. C'est pour ça que je te pose les questions aujourd'hui.
Okay.
Je suis sûr que si tu te mets vraiment à t'intéresser, enfin n'importe quoi, tu m'intéresses à peu près n'importe quel sujet, artistique, créatif. Du coup, comme tu dis, après ça ne va pas pouvoir te permettre de poser les mots sur ce que tu ressens. Mais franchement, j'invite tout le monde à avoir un peu des bases un petit peu en tout, bah, en musique, en peinture, pour vraiment ensuite capter la complexité de la chose. Enfin, en tout cas, il faut essayer vraiment de se renseigner à fond sur le plus de choses, être curieux. Quoi.
C'est ça.
Il faut être curieux sur tout. Et une fois qu'on est un minimum curieux sur tout, après on se rend compte de la complexité des choses et on a plus d'empathie envers les gens aussi. Parce que les gens manquent souvent d'empathie, ils ne se rendent pas compte de ce que vivent les gens. Je pense au métier de prof, souvent les gens ils voient. Je diverge complètement, tu vois, mais pour revenir à cette question-là d'éducation et de que les gens doivent être curieux sur absolument tout. Tu vois, les profs, les gens, quand on pense aux profs, les gens ils pensent à les 20 heures par semaine et les 3 mois de vacances dans l'année. Sauf qu'en fait, si c'était comme ça, tout le monde serait prof. Mais voilà quoi, il faut vraiment essayer de se renseigner le plus possible sur le plus de choses possible.
Quel est le métier, quelle est l'activité, qu'est-ce qui se cache derrière.
Exactement.
Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière.
Moi, j'avais une connaissance qui m'a dit je ne viendrai pas parce que là, je ne suis pas du tout habitué, je ne connais pas, je ne sais pas quoi. Et je lui dis, mais tu fais quoi dans la vie? Tu regardes la télé, tu fais quoi que ce soit? Et en fait, je lui dis, mais tu sais, l'art est partout. Tu regardes une affiche, la télé, enfin, il y a des images. Enfin, l'art, quand on s'habille, on essaie de faire une harmonie. Enfin, il y a plein de choses. Et cette personne, il est allé voir. Je l'ai amené dans un musée. Et j'ai l'impression qu'il allait s'ennuyer parce qu'il dit, bon. Et là, il s'est arrêté devant un tableau. Et il était très ému, très touché. Et j'ai senti qu'il se sentait fragile. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'une simple photo ou même un magazine, enfin, il y a plein de choses qui. Donc il faut. Oui, mais il faut être curieux, il faut voyager, il faut voir plein de choses, il faut. Puis aller aussi vers les gens. Parce que ça, c'est important aussi. On fait des belles rencontres et on. Enfin, c'est. Ouais, faut foncer, faut découvrir.
Faut, ouais. Juste vivre, voilà, vivre.
Mais c'est ça,
le bon là.
Voilà.
Mais...
Ah bah j'ai bien fait de vous inviter avec ces belles paroles là. C'est un bon moment de positivité. Alors, Xavier, où est-ce qu'on peut te retrouver? Par exemple, sur les réseaux, encore une fois.
Il y a Insta, il y a Facebook.
Alors, c'est quoi le Insta? C'est quoi le Facebook?
Alors, c'est It's Xavius. Et en fait, c'est Hop. Voilà, c'est mon nom de.
Hop avec un H.
O-P-E. Oh, voilà.
Ouais. Espoir, c'est ça.
Voilà. Voilà. Et c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui, hein, effectivement. Est-ce que tu as des petites expos de prévues là bientôt?
Oui. Et c'est ça qui est très drôle. Parce que je vais exposer chez mon fleuriste.
D'accord.
Je vais exposer dans un restaurant.
D'accord.
Je vais exposer pour un restaurant, mais qui est privé, qui est pour des personnes. Enfin voilà. C'est pour faire découvrir l'art à des jeunes. Enfin, c'est. Donc voilà, donc il y a plein de portes qui s'ouvrent, hein, parce qu'il suffit d'en ouvrir une, de faire une belle rencontre et que ça s'ouvre et que c'est...
C'est exponentiel, oui.
C'est ça. Et ça, c'est génial.
Ah bah oui. Le plus compliqué, c'est le début. C'est de réussir à avoir le culot, en fait, d'aller parler vers les gens. Et je pense qu'une fois que tu l'as fait, c'est bon, c'est fini, t'as gagné, je pense. Tu deviens... Après, il faut que la première expérience soit aussi... comment dire?
Ah oui, il faut assurer sur la première expérience.
Ouais, parce que si jamais tu te mets à avoir... avoir la confiance pour te dire bon je me lance pour la première fois et que le retour il est négatif, je pense que ça peut vraiment te foutre un sale coup au moral. Mais si après en général la première fois, voilà, on est des humains, je veux dire, ça se passe bien. Mais une fois que ça s'est bien passé, après
en France faut y aller,
ouais, plein de portes s'ouvrent, comme tu dis. Mais bien sûr,
même ça on peut pas dire que ça a loupé, mais si quelqu'un fait quelque chose et qu'au début il n'y a pas de bon retour, au moins il a fait. Et
c'est pour le guider après sur autre chose,
c'est ça.
Y a jamais d'erreur. L'erreur c'est quand tu... L'erreur, c'est quand tu fais quelque chose, tu te rends compte que c'était négatif et que tu recommences derrière. C'est de la bêtise. Mais quand tu fais une erreur et qu'ensuite tu en tires des leçons pour ensuite mieux faire à l'avenir, c'est pas une erreur.
Oui.
C'était juste une expérience.
Oui.
Mais l'erreur, c'est quand tu recommences encore et encore les mêmes erreurs, enfin les mêmes bêtises. Ça, c'est pour moi, c'est ça l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Les gens, en général, ils vont se dire ah bah oui, mais j'ai plein de gens autour avec moi à la fac. Ah putain, mais j'ose pas aller faire une année, ça se trouve ça se passera mal, etc. Et tout. Mec, on a 20 ans, enfin genre vas-y, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Il y a des gens, ils ont pas le... Enfin, c'est pas une critique. Mais s'il y a vraiment un moment où il faut le faire, je pense, en tout cas, c'est plus enclin de le faire jeune pour se dire, bah voilà, écoute, j'ai fait telle et telle expérience, et t'en ressortiras forcément grandi, plus mature, et tu sais, au moins, t'auras une idée plus précise de là où tu veux aller. Parce que c'est comme une. La liste, c'est peut-être une grande vie, enfin une grande liste de choses à faire, et au fur et à mesure, tu coches ce que t'as pas aimé, et puis bah à la fin, tu te rends compte de ce que t'aimes ou pas.
Alors, moi, je suis d'accord avec toi. À 20 ans, c'est ça qu'à 20 ans, bah. Soyons fous, quoi. Enfin, la jeunesse, même si on fait des erreurs, des bêtises, c'est ça qui est génial, quoi. Enfin, c'est le top. Mais je dirais, après, il n'y a pas d'âge.
Oui.
Il y a plein de. Je n'ai plus 20 ans, merci.
quand j'ai dit la phrase, faut le faire maintenant, attends, je me suis dit, oula, je ne sais pas si c'était ça.
Ah non, c'est pas ça, pas. Oui, non, côté, mais je te rassure. Mais je veux dire, il faut. C'est toute une vie d'oser. Il faut oser, il faut.
Il faut essayer.
Ouais.
Il faut se lancer.
Ouais. Mais tu as raison. Autant faire ça à 20 ans, tu te plantes, bah tu te plantes.
Bah, je dis ça parce que bah, souvent, quand les gens ils sont plus âgés, ils ont une vie déjà engagée, je veux dire. Ça,
oui, ah, mais oui, bien
ça,
sûr.
Bah, bah, forcément, quand t'as une vie de famille, c'est plus compliqué de tenter des choses par-ci par-là dans ta vie perso, pro. Mais voilà, si t'as passé les limites là, tant mieux. J'ai envie de te dire pour toi, tant mieux pour toi. Mais voilà, ouais, faut tenter. Faut tenter.
Mm. Bah, très bien. Et bah, à propos de. Bah, déjà, merci beaucoup, messieurs.
Avec plaisir.
On termine sur des super belles paroles et sur un très beau discours. Voilà, bientôt on ouvrira un onglet radio philo.
On va écrire un livre.
Et bah très bien, merci à vous.
Merci.
Vraiment, je suis très 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 content de vous avoir reçu. C'était un plaisir. Et puis surtout quand on voit la rencontre entre un photographe et un peintre qui fonctionne à merveille, forcément. En même temps, vous parlez d'image, donc ça peut que fonctionner.
C'est clair.
On va revenir vers la musique. Car derrière moi, il y a Anas Matt qui traîne des pieds, qui est tout prêt à lancer son DJ set. Est-ce que tu es prêt, Anas Matt ? Ok, t'as ton premier morceau, c'est bon ? Ok, super. Alors, je vais monter ton volume et puis bah, quand tu es prêt, tu peux lancer. Vous êtes toujours sur Radio Campus. Il est 18h42 et c'est parti pour une heure d'un DJ set d'Anas Matt. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.
Run by from the took them to question.